Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes en décembre et ça n'a pas super bien commencé. Bon d'accord, c'était pas non plus le mois de septembre 2008, mais on sentait comme un espèce de petit coup de fatigue. Hier, les marchés avaient l'air de Gérard Larcher qui sort du repas de midi. Il sait qu'il a beaucoup trop mangé, qu'il est super mal, mais il sait quand même qu'il va revenir demain parce qu'en plus, c'est gratuit à la cantine de l'Assemblée nationale. Le rouge était donc partout, aux États-Unis, en Europe. Sauf en Suisse, parce qu'en Suisse, il y en a plein comme nous, et on a eu droit à des fabricants d'avions qui font des rappels dans tous les sens et qui savent bien que, même si ça arrive deux fois en trois jours, parfois c'est un tout petit peu fatigant. Et puis il y a eu l'Allemagne qui nous a sorti des chiffres immondes, tout comme les USA. La sanction était la même des deux côtés de l'Atlantique. Les obligations commençaient à montrer des signes de nervosité, alors que le Japon ressemblait à un épouvantail qui commençait à nous foutre la trouille. Bref, on est entré dans ce mois de décembre 2025 sans se poser de questions et 24 heures plus tard, on n'a plus que ça, des questions. Ce qui nous donne un marché qui doute, un marché qui flippe, mais un marché qui voudrait quand même acheter le dip. Oui, parce qu'on a quand même été formé pour ça, faut pas oublier. On fait donc le tour des histoires du matin comme si c'était un conte de fées, mais en fait, c'est pas un conte de fées, c'est le nouveau feuilleton Netflix spécial Noël qui commence. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Bayet et nous sommes le mardi 2 décembre 2025. Et celui qui me demandait où est le casque de Jacques Villeneuve, il est là. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, hier, si tu cherchais une séance de marché pour te remonter le moral, il fallait clairement aller chercher ailleurs. Les indices se sont fait tasser dans les barricades, sans faire de prisonniers. Le S&P perdait 0,5%, le Nasdaq qui se ratatinait de 0,4%, le Dow Jones qui perdait presque 1%. Comme une espèce de vieux diesel qui n'arrive plus à pousser en montée. Et pendant que les Américains faisaient la gueule, l'Europe, eh ben, l'Europe, c'était presque pire. Le DAX s'est vautré de 1%, la France s'est pris un petit 0,3%, elle s'en sort plutôt pas mal. Et là-dessus, évidemment, bien la Suisse qui prenait 0,13%. Oui, parce que chez nous, en Suisse, on a décidé que la gravité s'appliquait pas tous les jours, surtout quand le luxe tire un petit peu la charrette vers la hausse et que les big caps refusent obstinément de baisser. Et puis, alors, au milieu du SMI, il y avait l'UBS. Il faut reconnaître que ça faisait un moment qu'on n'en parlait plus. C'est Julius Baer qui prenait les coups depuis plusieurs semaines. Et puis, on s'est souvenu que dans l'UBS, il y a une autre boîte qui s'est faite avaler et qui s'appelait le Crédit Suisse. Et le Crédit Suisse, c'était le spécialiste pour se foutre dans toutes les gonfles. S'il y avait une dans le monde de la finance, on pouvait presque être sûr que le Crédit Suisse était dedans. Donc, du coup, le ministère public de la Confédération a ressorti des tiroirs un vieux scandale moisi des crédits mozambicains et balance une accusation sur le Crédit Suisse et donc sur UBS qui se retrouve dans une histoire qu'elle a héritée comme un meuble IKEA mal monté qu'on aurait racheté sur ricardo.ch. Le procureur reproche au CS d'avoir fermé une relation client louche sans prévenir personne, laissant filer des millions vers Dubaï comme si c'était un simple virement via Twint. Et au milieu, eh bien, il y a une compliance officer qui aurait joué les pompiers en soufflant sur les braises. Tout ça pour une flotte fantôme de pêche-auton qui a jamais vu l'océan, mais qui s'est contenté d'encaisser les pots de vin. Le Mozambique s'était retrouvé fauché, sa monnaie en PLS, et le FMI avait claqué la porte. UBS dit qu'il n'y a rien à voir et qu'ils s'en fichent parce que le Conseil fédéral et la FINMA leur ont filé une carte sortie de prison sans passer par le start. L'affaire date de 2016 et l'UBS ne veut pas remuer le passé, et en plus c'était pas leur faute. Ils veulent bien reprendre les actifs du Crédit Suisse pour dépanner, mais pas les plantages historiques de la défunte banque suisse. Sinon c'est trop dur. Et puis ça coûte trop cher. Sauf que maintenant, le ministère public de la Confédération veut quand même rejouer le match retour. Oui, parce qu'il y a des lois, c'est ballot, mais c'est comme ça. Eh oui, la finance, c'est ce monde magique où même les scandales reviennent avec les intérêts des biteurs. Mais en Europe, pour être honnête, le vrai feuilleton du jour, c'était Airbus. La boîte a sorti une histoire de panneaux métalliques vaguement défectueux sur les Airbus A320. On vous dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de quoi paniquer, que personne ne va tomber du ciel. Et le marché, lui, il a réagi un petit peu comme si un avion venait de perdre un moteur juste au-dessus de l'Elysée. Bam! 10% de baisse en séance. Rien que pour dire bonjour. Après, on s'est rattrapé un peu et on a fini qu'à moins 5,8%. Faut dire que l'histoire est sortie juste après leur histoire de rayonnement solaire qui avait fait grandir 6 000 mis les Airbus A320 pour le week-end dernier. On adore. Et pendant qu'on y est, eh bien, Thales a aussi perdu 2,6% juste pour faire bonne figure parce qu'il paraît que la solidarité, c'est important. Même quand on jure qu'on n'a rien fait parce que les calculateurs qui tombent en panne, c'est les leurs. Mais c'est pas à cause d'eux qu'ils tombent en panne. Et puis en Allemagne, c'est la Macro qui sent-elle brûler. Alors là-bas, on parle pas d'un problème d'avion, mais d'un problème de moteur. Le moteur du pays. Le PMI manufacturier retombe à 48,2, plus bas depuis 9 mois. Les usines allemandes, pour l'instant, on dirait un plat de spaghettis trop cuit. Ça s'étire, ça colle, mais ça n'avance plus. Le plus inquiétant, c'est les nouvelles commandes qui plongent. Plus personne ne veut rien acheter. Depuis juillet 2022, le PMI est resté sous les 50. L'industrie allemande regarde la croissance passer, mais alors de loin, de très loin. Les emplois, les stocks, les commandes, tout le monde hurle au secours. En surface, on pourrait croire que ça repart un peu, mais dès que tu grattes 3 mm sous la surface, bah tu prends tes jambes à ton cou tellement ça fout les jetons. Et puis alors, aux États-Unis, on sortait d'une série de 5 séances de hausse du vert partout. La saison des sapins, des guirlandes, du chocolat chaud. Normalement, décembre, c'est le mois où tout le monde il est beau et tout le monde il est content. Et puis, on s'est rappelé qu'en décembre, il y a aussi du rouge. Le rouge du Père Noël, le rouge du Coca, le rouge des indices quand ils se prennent une claque. Et donc, hier, on a fait le dip. On a officiellement déclaré ouverte la chasse aux acheteurs compulsifs. Mais ce qui était fascinant, c'est que la baisse a touché tout le monde, même les utilities, pourtant censés tenir la baraque quand tout tremble. Et les obligations ont suivi le mouvement. Si même le coin ultra sécurisé se met à trembloter, on commence à voir que la confiance, elle n'est pas franchement au top. Depuis quelques jours, on sent quand même une ambiance étrange. On croit dur comme fer à une baisse des taux dans 8 jours. Mais en même temps, le moral est dans les chaussettes parce que l'économie va vraiment pas bien. Mais une économie qui va pas bien, c'est une économie qui doit baisser les taux. On doit donc espérer le mal pour que Powell fasse le bien. Et puis, on voit que les investisseurs commencent à se couvrir. Ils sont pas totalement stupides, évidemment. D'ailleurs, les options anti-crash deviennent plus chères. Signe clair qu'on veut bien jouer aux boules, mais avec un casque, des gants, des protège-tibias et un airbag intégré. Et si on regarde la séance d'hier en détail, on remarque tout de suite un truc, c'est que le goût du risque a été pas vraiment au menu. Le meilleur exemple, c'est le Bitcoin. Déjà, qui s'est pris 35 000 $ dans les dents en 2 mois, il a encore piqué du nez hier. Strategy a prévenu que ses résultats seraient pas grandioses à cause de la gueule de bois du secteur crypto, justement. Résultat, le Bitcoin est repassé brièvement sous les 84 000 $, au pire de la journée. Alors, ce matin, ça va mieux, on remonte vers les 87 000, mais on sent bien que si c'est ça l'appétit au risque, on a connu des convictions bien plus éclatantes dans le monde merveilleux de la finance. Les taux longs japonais ont atteint un plus haut depuis 17 ans, et quand les japonais éternuent, généralement les obligations mondiales s'enrhument dans la minute. Alors oui, tout le monde en parle, mais d'un ton ultra détendu, peut-être trop. Genre, ouais bon, c'est le Japon, on s'en fout du Japon, tout le monde fait semblant de s'en foutre, jusqu'au jour où ça deviendra peut-être un vrai problème. Je dis bien peut-être, mais pour l'instant, ça gâcherait l'ambiance de fin d'année. Visiblement, décembre commence avec un mélange de doutes, d'envie et de gens qui n'ont envie d'y aller, acheter, que si quelqu'un les accompagne. Statistiquement, décembre est bullish et en année électorale, c'est encore mieux. Mais les stats, ça marche bien jusqu'au jour où ça marche plus. Enfin, hier, clairement, on avait comme une espèce de doute qui flottait dans l'air, même si on a 74% de chances de finir l'année en hausse. Décembre fait quand même partie des 2 meilleurs mois de l'année. Je sais pas trop ce que ça veut dire faire partie des 2 meilleurs mois de l'année, mais une chose est sûre, c'est que selon Mark Twain, octobre est un mois particulièrement dangereux pour spéculer en bourse, mais il y en a d'autres. Juillet, janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février. Et puis ce matin, les marchés asiatiques ont ouvert en mode optimisme tiède, le genre on n'espère pas trop fort, on veut pas être déçu. Alors pourquoi cet enthousiasme prudent? Parce que tout le monde imagine déjà la Fed en train d'appuyer sur le bouton baisse des taux la semaine prochaine, et les chiffres pourris du PMI américain à 48,2 n'ont fait que renforcer le délire. Le Kospi s'envole de 1,5% parce que Trump a baissé ses tarifs à 15%, le Japon grappille 0,4% malgré les mots assassins d'Ueda de la veille, Hong Kong rebondit et la Chine fait la gueule. En gros, tout le monde mise sur Powell. Mais alors, vraiment tout le monde. Ce qui est toujours un peu inquiétant parce que Powell, on sait que des fois, il peut surprendre. Puisqu'on parle de Powell et que justement, il n'y a pas trop de macro à se mettre sous la dent en ce moment, et ben hier, il y avait le PMI américain qui s'est planté à 48,2. On l'attendait à 49,3 hier. Souvenez-vous, je vous en ai parlé. Moins pire que le mois dernier qui était à 48,7, sauf que cette fois, à 48,2, c'est bien pire. C'est plus pire. C'est même pire que pire. C'est le 9e mois consécutif de contraction aux États-Unis. On n'est pas en récession immédiate là tout de suite, mais on la voit quand même arriver un peu comme si vous êtes au milieu des voies avec le TGV qui arrive à toute vitesse. vitesse. Les nouvelles commandes plongent, l'emploi recule, les stocks sont à la diète, les prix montent, les délais fournisseurs se raccourcissent, signe que la demande mollit et on n'a aucune visibilité pour l'avenir. 58% du PIB manufacturier est en contraction et 39% est en contraction sévère. Le reste, écrabouillé par les tarifs, la politique, la paperasse et la confusion totale dans laquelle les Américains vivent en ce moment. Même l'IA, on déclare qu'elle brouille la demande. En gros, l'ISM de novembre raconte une histoire assez simple. L'industrie américaine ne s'effondre pas, mais elle n'a aucun momentum. Tarifs, politique et paperasse plombent tout. Les boîtes gèrent les effectifs comme si 2026 allait être un hiver nucléaire. La demande intérieure hésite, l'export cale et les prix montent. Mais la bonne nouvelle, c'est que chiffre de merde égale taux qui baisse. On va donc pas se laisser abattre. Et alors, pendant ce temps-là, avalanche d'optimisme sur l'IA. Dans la presse du matin, c'était un festival. Apple recrute un gourou de l'IA qui va soi-disant tout changer. Meta prévoit 100 milliards d'investissements d'ici 2026, mais génère déjà 60 milliards via l'IA publicitaire. Un analyste voit plus 70% de potentiel sur Meta. Un autre voit plus 90% sur Oracle. Et une explication sur Nvidia te donne envie de vendre un rein, une cornée et un bout du foie pour acheter des actions. Parce que oui, Nvidia serait bon marché à 25 fois les bénéfices futurs. C'est presque insultant. Les clients ne peuvent pas switcher, les GPU dominent tout, la demande explose, l'offre est coincée, on connaît l'histoire. Nvidia est surtout pas chère par rapport à Broadcom, mais surtout par rapport à elle-même. Et comme disait le dicton, quand Nvidia est en promo, les bears finissent en carpaccio. J'avoue qu'il n'est pas simple de prendre position ce matin alors que les avis sont aussi partagés et divergents. On se croirait aux USA à écouter un débat entre démocrates et républicains à propos de la législation sur les armes. Pour le reste, on notera que Nvidia prend une participation de 2 milliards dans Synopsys, que Trump est optimiste sur un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, mais que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Shopify est tombé en panne hier en pleine période de solde, c'est super. Les droits de douane avec la Corée sont descendus à 15%. Et puis, selon Bloomberg, la récente correction des cryptos a effacé 1 milliard d'investissements qui étaient en levier. Voilà. Si je devais résumer la séance d'hier en une phrase, ce serait « on avance, mais avec un casque et un gilet pare-balles ». D'un côté, la macro nous souffle à l'oreille que ça sent brûler, que les commandes s'évaporent, que les usines tirent la langue, que le Japon éternue et que Bitcoin fait une crise d'angoisse. Et de l'autre côté, t'as les apôtres de l'IA qui te promettent que Meta va exploser, qu'Oracle va décoller, que Nvidia est en promo, ce qui, en 2025, est probablement la phrase la plus dangereuse de l'histoire des marchés. Résultat, on navigue entre peur du vide, euphorie technologique, logique et prière à Powell pour qu'il ne transforme pas le mois de décembre en cauchemar. Et c'est ça le marché en ce moment, un mélange de scepticisme, de foi, de vertige et de bon. Allez, j'achète quand même, on verra bien. Bienvenue dans le dernier mois de l'année, celui où on espère, on doute, on flippe et on sourit quand même, parce que sans ça, franchement, on fera un autre métier. On se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures, pas forcément plus logiques et plus rationnelles, mais de nouvelles aventures quand même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter, et puis surtout, passez une excellente journée. À demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.